14h-15h, le grand journal, Steve Nadjar.
Radio J.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition spéciale du Grand Journal. Nous sommes ensemble en direct pendant une heure, une émission largement consacrée à la situation en Israël. Nous sommes le jeudi 2 mai, Radio J, il est 14h. Au sommaire, l'édito politique de Mathieu Slama, le coup de gueule de Franck Tapiro, mon invité, l'historien Jean-François Colosimo, pour son livre sur la haine de l'Occident. Le grand journal que vous pouvez écouter sur notre site radioj.fr ainsi que sur notre appli gratuite. Vous pouvez également nous suivre en vidéo sur nos pages Facebook, YouTube et X. Merci de votre fidélité renouvelée à cette émission. Et au programme de Radio J, tout de suite, le premier journal de l'après-midi avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Steve, bonjour à tous.
Au 209e jour de guerre en Israël, la réponse du Hamas aux négociations pour la libération des otages toujours détenus à Gaza se fait attendre.
Un haut responsable du bureau politique du groupe terroriste a affirmé que le Hamas allait rejeter la proposition d'accord du fait qu'elle n'inclurait pas la fin de la guerre et le retrait total de Tsahal de la bande de Gaza. Le Hezbollah ferait lui pression sur l'organisation pour qu'elle refuse cet accord contre les États-Unis. En particulier, Anthony Blinken ont pressé les terroristes d'accepter la proposition sans plus tarder. Écoutez le chef de la diplomatie américaine, il était hier en déplacement en Israël.
Israël a fait des compromis très importants dans la proposition qui est sur la table. Ça montre son désir et sa volonté de parvenir à cet accord et de le faire maintenant. Je l'ai dit, c'est au Hamas de décider s'il acceptera cet accord et fera réellement progresser la situation de la population gazaoui dont il prétend se soucier. Il n'y a pas de temps pour de nombreux marchandages. L'accord est là et le Hamas devrait l'accepter. Si le Hamas prétend réellement se soucier du peuple palestinien et veut voir un soulagement immédiat de ses souffrances, il acceptera l'accord. S'il ne le fait pas, je pense que la situation sera encore plus grave. Ce sera la preuve que le Hamas ne se soucie pas du tout du peuple palestinien.
Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, traduit par I24 News. Notez que dans ce contexte, le cabinet de guerre doit se réunir à 18h30 heure israélienne et le cabinet élargi, lui, à 20h30.
Alors que des manifestants étatiques ont bloqué l'autoroute nord d'Ayalon à Tel Aviv pour presser la signature de cet accord.
C'est Rafah où les otages choisissaient la vie. C'est le message que la principale banderole qui bloquait toute la largeur de l'autoroute a affiché ce matin. Une mobilisation menée par plusieurs familles d'otages. Une partie des manifestants ont appelé le gouvernement israélien à abandonner l'idée d'une nouvelle offensive dans le sud de la bande de Gaza, avertissant que cela mettrait en danger la vie des captifs dont beaucoup seraient détenus à Rafah. Ailleurs, en Israël, à Jérusalem, des portraits d'otages ont été installés devant la résidence du Premier ministre dans le même but, pousser l'exécutif israélien à tout faire pour qu'un accord puisse être signé afin que les 133 otages, toujours aux mains du Hamas, soient enfin libérés.
Et sur le terrain à Gaza, des avions de combat de Tsahal ont touché un poste de lancement de mortiers après que des projectiles aient été tirés sur les troupes israéliennes dans le centre du territoire.
Selon Tsahal, il n'y a aucun blessé lors de l'attaque hier. Par ailleurs, toujours dans le centre de la bande de Gaza, des réservistes de la brigade d'Iftar ont éliminé une cellule terroriste qui tentait de tendre un piège aux soldats sur le terrain. Le tout à l'aide de frappes de drones et de tirs d'artillerie. Pendant ce temps, les combats se poursuivent également dans le nord d'Israël. Daniel Haïk.
Hier soir, l'armée de l'air israélienne a bombardé des positions du Hezbollah au sud du Liban et ce après que l'on ait identifié deux tirs de missiles à partir du territoire libanais par le mouvement chiite en direction du Moshav de Shetula dans le nord d'Israël. Il y a eu des dégâts, mais pas de blessés lors de ces tirs. Et hier, lors des rencontres entre les dirigeants israéliens et Anthony Blinken, ce dernier a également débattu du dossier libanais. Il a affirmé que sans cesser le feu dans la bande de Gaza, les combats allaient se poursuivre dans le nord et justement pour éviter une escalade de la violence. Le long de la frontière entre Israël et le Liban, les pourparlers sur un accord entre les deux pays se poursuivent. Dans le cadre de cet accord, le Hezbollah pourrait accepter de se replier quelques kilomètres au nord de l'actuelle frontière, mais pas au-delà du Litani, comme Israël le réclame conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité.
Notre correspondant en Israël, Daniel Haïk.
Aux États-Unis, la définition de l'antisémitisme a été élargie dans un premier vote du Congrès.
Elle va désormais reprendre la définition de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, l'IHRA, une mesure proposée en réaction aux manifestations pro-palestiniennes qui secouent les campus du pays. Une partie de la classe politique accuse les manifestants d'antisémitisme, évoquant entre autres des slogans hostiles à Israël. Selon l'IHRA, l'antisémitisme est une certaine perception des juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des individus juifs ou non et ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte. Écoutez Hakeem Jeffries, élu démocrate qui a voté en faveur du texte.
Nous devrions faire tout ce qui est possible de manière sérieuse et sensée pour combattre l'antisémitisme, pour écraser l'antisémitisme, l'enterrer dans le sol et s'assurer qu'il ne puisse plus jamais ressurgir. La lutte contre l'antisémitisme n'est pas une question démocrate ou républicaine, elle devrait être une question américaine.
Les détracteurs du texte estiment, eux, que cette définition empêche certaines critiques de l'État d'Israël, ce dont l'organisme se défend. Pour entrer en vigueur, cette mesure doit encore être adoptée au Sénat, où son avenir est encore incertain, puis promulguée par le président Joe Biden.
Et au sujet justement des manifestations anti-Israël dans les universités américaines, plus de 1600 personnes ont été arrêtées dans 30 établissements ces deux dernières semaines.
Donc plus de 400 manifestants pro-palestiniens ces dernières 24 heures. La police américaine s'est massée sur le campus de UCLA à Los Angeles ce matin et a délogé des centaines d'étudiants retranchés dans des campements, étudiants qui ont refusé de répondre aux appels d'évacuation et se sont barricadés sur le campus deux jours après les violents affrontements qui ont éclaté entre manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens. La Maison Blanche a condamné le petit pourcentage d'étudiants qui provoquent du désordre. Les étudiants ont le droit d'aller en cours et de se sentir en sécurité, a encore déclaré Karine Jean-Pierre, la porte-parole de l'exécutif.
Dans le reste de l'actualité internationale, la Colombie rompt ses relations diplomatiques avec Israël.
Le président Gustavo Petro a dénoncé un gouvernement et un président génocidaire en parlant de l'État hébreu lors d'un discours prononcé devant plusieurs milliers de partisans à Bogota. Il avait déjà vivement critiqué la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Jérusalem l'a immédiatement accusé de récompenser le Hamas qui a de son côté qualifié de victoire, l'annonce du dirigeant colombien.
En France, Sciences Po Paris a organisé ce matin un débat interne sur la guerre à Gaza.
C'était une demande des organisations étudiantes et en particulier des bloqueurs de vendredi dernier. Une discussion à huis clos qui s'est tenue dans le célèbre amphithéâtre Émile Boutmy, avec parmi les nombreux points évoqués, la question des relations entre Sciences Po et les universités israéliennes. Il y a un mois et demi, une étudiante juive avait été victime d'une agression de militants anti-israéliens dans ce même amphithéâtre. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a appelé les manifestants à éviter tout débordement.
Une école, c'est fait pour étudier et débattre. C'est pas fait pour avoir des confrontations violentes comme celles qu'on voit sur les campus américains. Qu'est-ce qu'on veut ? Que la violence qu'on voit sur les campus américains arrive en France ? Ou est-ce qu'on veut que la France reste une nation de lumière, de science, de savoir, d'études, de débats, de tolérance ? C'est ça qui se joue actuellement. Donc tous ceux qui croient, et qui sont l'immense majorité des étudiants, évidemment, dans le débat, dans le savoir, dans l'échange d'idées, dans la confrontation des idées, doivent respecter les idées des autres, admettre le débat et refuser toute forme de violence.
L'administrateur provisoire de Sciences Po, Jean Basser, annonce, lui, le lancement de travaux pour préparer à la rentrée un plan pour mieux poser les règles du débat demain et mieux vivre ensemble au sein de Sciences Po. En attendant, de Nanterre à Tolbiac, plusieurs syndicats étudiants, dont l'UNEF, le NPA Jeune ou Point Levé, appellent à une assemblée générale interfac en fin d'après-midi, avant un rassemblement prévu demain devant le Panthéon à 14h.
Politique, un peu plus d'un mois avant les élections européennes du 9 juin, les têtes de liste de Renaissance et du Rassemblement National vont s'affronter dans un débat télévisé.
Valérie Ayé et Jordan Bardella se feront face à partir de 21h sur BFM TV, quand le Rassemblement National est crédité de 32% des intentions de vote à 5 semaines du scrutin selon un sondage Ipsos. Valérie Ayé fait elle office de challenger avec seulement 17% des intentions de vote.
Du sport pour terminer ce journal avec du football et la défaite du Paris Saint-Germain hier soir en demi-finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.
Malgré des opportunités bien réelles, les Parisiens se sont inclinés 0-1 hier soir aux Allemands dans ce match de Ligue des Champions. Le match retour est prévu dans un peu moins d'une semaine, mardi prochain au Parc des Princes. En attendant, l'Olympique de Marseille affronte l'Atalanta Bergame ce soir en demi-finale de la Ligue Europa.
Et on espère une victoire française cette fois. Merci et à tout à l'heure pour le rappel des titres. À suivre la politique.
Nadjar.
Annie, je ne vais arrêter l'invitée ce matin de Christophe Barbier dans le morning de Radio J. La secrétaire générale du Parti Les Républicains s'exprimait notamment sur l'exfiltration hier à Saint-Etienne de Raphaël Glucksmann d'un rassemblement pour la fête du travail, mais aussi sur les blocages dans plusieurs campus au nom de la défense des Palestiniens, mais où, vous le savez, l'antisémitisme n'est jamais très loin. On l'écoute.
Moi, je trouve que c'est assez affligeant et ça révèle finalement que les luttes sociales passent au second plan. Ces manifestations sont l'occasion de casseurs, de dégradations. Et puis, évidemment, les pro-palestiniens sont de la partie. Et l'éviction de Raphaël Glucksmann atteste quand même de l'évolution de cette gauche radicale islamo-gauchiste qui a saisi l'occasion du 1er mai, qui est une date quand même habituelle pour les revendications sociales, pour faire un coup d'éclat.
Il accuse la France insoumise, il dit qu'il y avait des drapeaux et les filles.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, les propos de Mélenchon résonnent comme un aveu, parce qu'il dit « on n'y est pour rien, mais il ne fallait pas qu'ils s'en prennent à LFI ». Donc, cette ambiguïté est en réalité un aveu. Je pense que la NUPES est morte aujourd'hui. Et finalement, c'est assez encourageant de voir qu'une gauche normale, si je puis dire, se réveille et prend ses distances à l'égard des outrances qui éclatent là avec l'affaire du conflit israélo-palestinien.
Des outrances, il y en a eu à Sciences Po. Aujourd'hui, la direction essaye de réunir tout le monde. Que feriez-vous si vous étiez au pouvoir pour traiter ce problème des campus? On le voit aux États-Unis, mais on le voit aussi dans beaucoup d'universités en France.
D'abord, il faut aucune ambiguïté à l'égard de ceux qui prônent l'effacement d'Israël. Je rappelle quand même que aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Rima Hassan que les étudiants de Sciences Po appellent à une Palestine libre de la mer au Jourdain, c'est-à-dire l'effacement d'Israël. Je crois qu'il faut aucune ambiguïté à l'égard de ceux qui prônent l'effacement d'Israël et qui sont dans une idéologie parfaitement antisémite, très identifiée. Donc il faut aucune complaisance ou la plus grande fermeté à l'égard de ceux qui prônent l'effacement d'Israël. Et puis ceux qui affichent leur soutien résolu au Hamas, qui est quand même l'auteur de cet épouvantable pogrom du 7 octobre, doivent être poursuivis pour ce qu'ils disent.
Ça ne vous choque pas que Mathilde Panot, présidente de groupe, soit convoquée par la police?
Écoutez, je pense que c'est une question compliquée que vous posez. D'un côté, les parlementaires doivent être libres de leur parole politique, mais quand la parole politique frise l'antisémitisme, les députés ne sont pas au-dessus des lois. L'antisémitisme est un délit. Et par conséquent, il doit être poursuivi, quel que soit celui qui le profère. Pour ce qui est de Sciences Po, ce qui se passe est quand même extrêmement grave, parce que c'est le lieu quand même où on doit éveiller les esprits, où on doit apprendre la controverse, où on doit débattre. Et là, on voit bien qu'il se passe quelque chose de très grave. En plus, il y a un phénomène d'extension du conflit à d'autres universités. Mais ce qui me frappe, vous voyez, quand on compare l'attitude des pouvoirs publics aux États-Unis et celle que nous avons en France, aux États-Unis, on déloge les manifestants. On l'a vu cette nuit à Columbia. En France, on les ménage. On les invite à la table.
C'était la secrétaire générale du Parti Les Républicains, Annie Genevard, Christophe Barbier, que vous retrouvez dès demain dans le morning à partir de 7h45.
Radio J.
Moi, président de la République,
qu'il démissionne,
c'est de la poudre de perlimpinpin.
Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs.
Politique toujours à présent avec Mathieu Slama. Bonjour Mathieu.
Bonjour Steve.
Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine. Mathieu, on revient avec vous d'abord sur ce qui est arrivé hier à Raphaël Glucksmann, tête de liste PS, place publique pour les européennes, et qui a été empêché de rejoindre le cortège du 1er mai par des militants d'extrême gauche, notamment au nom de la défense des Palestiniens. D'abord, est-ce que vous avez été interpellé, choqué par ces images?
Alors oui, ces images m'ont énormément choqué. Moi, je soutiens, j'apporte mon soutien à Raphaël Glucksmann par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que c'est important de le faire. Et je suis effaré par le spectacle qu'offre la gauche aujourd'hui. Le spectacle de division.
C'est un soutien sans réserve.
Sans réserve. Le spectacle qu'offre aujourd'hui la gauche, le spectacle de division qu'offre la gauche aujourd'hui est absolument effrayant. Le 1er mai, c'est censé être un moment d'unité. un moment où la gauche réaffirme ses valeurs de défense des droits des travailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est on a une énième manifestation, non seulement donc de la division de la gauche, mais en plus de la violence à l'intérieur de la gauche, puisqu'on a vu des militants communistes et peut-être aussi insoumis, puisqu'apparemment il y a au moins un militant insoumis qui a affirmé avoir participé à ce qui s'est passé, qui s'en prennent violemment à un représentant éminent représentant de la gauche aujourd'hui. Donc ça nous dit quelque chose de la division qui est à gauche, d'un certain climat de violence qui existe au sein de certains militants à gauche. Moi, quand je vois sur les réseaux sociaux ce qui se dit entre les différents militants de gauche, entre les insoumis, les communistes, etc., etc., moi je suis mais effaré par la violence qu'il y a.
Vous craignez que ça déborde au-delà des réseaux sociaux et au-delà de ce qui s'est passé hier à Saint-Étienne.
Et ça déborde, c'est en train de déborder. Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet disant qu'il ne il n'était pas derrière, mais il n'a pas suffisamment condamné ce qui s'est passé. Il n'a pas apporté vraiment ouvertement son soutien à Raphaël Guzman. Il en a tout de suite profité pour attaquer Guzman. Bon,
donc. Et ce matin, Mathilde Panot était sur France Info et elle a accusé Raphaël Guzman de, je cite, monter lui-même cet incident en épingle.
Bah, visiblement, Glucksmann n'a pas menti, puisque il y a déjà au moins un militant insoumis qui a affirmé avoir participé à ce qui s'est passé. Donc, on peut déjà considérer que Glucksmann n'a pas menti. Et ensuite, ça n'est pas possible, ça. Ça n'est pas possible, ce climat-là. Ça n'est pas possible que à la France insoumise, constamment, on s'acharne sur des gens qui représentent une ligne différente à gauche. C'est pas possible que Raphaël Glucksmann s'en prenne autant plein la gueule depuis des mois et des mois, même y compris sur les positions qu'il a pas tenues, mais passons, depuis des mois et mois, avec beaucoup de violence, alors que je le redis, à côté de ça, vous avez l'extrême droite qui fait quasiment cavalier seul dans cette campagne pour les élections européennes, qui n'a pas une polémique en vue, et qui se retrouve tout à fait, comment dire, libre de dire ce qu'elle veut pendant que la gauche se déchire. Ça me désole.
Et d'ailleurs, vous regrettez, petite parenthèse, que la gauche, notamment Raphaël Guzman, ne participe pas au débat organisé ce soir entre Jordan Bardella et Valérie Ayé.
Oui, ça, je comprends pas qu'il y ait un débat organisé seulement entre Bardella et la candidate Valérie Ayé, la candidate Renaissance, parce que c'est un peu le match qui est en train de se jouer, c'est-à-dire entre d'un côté la majorité présidentielle et l'extrême droite, mais on en oublie évidemment les autres candidats et en particulier la gauche. Moi, je voudrais dire une chose, je voudrais finir sur un point là-dessus. Si je le dis vraiment très fermement, si la gauche n'est pas unie, c'est l'extrême droite Marine Le Pen qui gagnera en 2027. C'est aussi simple que ça. C'est une certitude. Mais la gauche a toujours gagné unie. Et là, on est en train de voir une division épouvantable. La gauche a toujours été unie entre d'un côté une gauche de rupture que représentait par exemple en 2022 Jean-Luc Mélenchon et une gauche plus social-démocrate que représente Raphaël Glucksmann.
Mais est-ce qu'on n'a pas là deux gauches définitivement réconciliables?
Alors moi je suis désolé qu'on en arrive à là. Je suis désolé qu'on en arrive peut-être en effet à deux gauches irréconciliables. Je le redis, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon d'apaisement en 2022 était la bonne et a permis à la NUPES de se former avec les différentes formations de la gauche. Et qu'est-ce qui se passe depuis des mois? La stratégie de radicalisation des insoumis qui marginalise la gauche, qui fracture la gauche, et on se retrouve aujourd'hui voilà avec une gauche morcelée alors qu'on a besoin à la fois de la gauche de rupture et de la gauche social-démocrate. Ça ne peut être que comme ça que la gauche peut gagner.
Mathieu Slama, vous souhaitiez également revenir cet après-midi sur les blocages pro-palestiniens dans plusieurs campus de Sciences Po et dans plusieurs universités. Ce matin, un town hall à l'américaine, un débat interne a été organisé par la direction provisoire de l'établissement de Sciences Po Paris avec les étudiants sur le sujet. L'administrateur provisoire de l'école Jean Basser a reconnu devant des journalistes en fin de matinée, je cite, une hausse des signalements liés à l'antisémitisme. Autrement dit, on ne vient pas seulement soutenir des Palestiniens dans ces rassemblements.
Alors, je pense que ce qui s'est passé notamment à Sciences Po, ce qui s'est passé aussi à la Sorbonne, doit nous interpeller. Et oui, il y a des choses qui m'ont choqué. Oui, certains slogans m'ont choqué. Oui, les images des mains ensanglotées qui font référence à ce qui s'est passé au massacre de Ramallah.
Au lynchage en 2000. Des Israéliens.
Exactement. Oui, ça m'a choqué. Oui, certains propos, une certaine forme d'extrémisme qui s'est exprimé à ce moment-là, oui, ça m'a choqué.
Ça vous a choqué et c'est de l'antisémitisme?
Ça m'a choqué et il y a eu chez certains étudiants certainement de l'antisémitisme, ou en tout cas un antisionisme extrême qui, pour moi, se rattache à de l'antisémitisme.
Mais de la rivière à la mer, c'est un slogan antisémite.
Voilà, pour moi, en tout cas, c'est un slogan qui nie à l'État d'Israël le droit d'exister et pour moi, c'est un slogan extrêmement choquant. Mais vous avez aussi parmi ces étudiants des étudiants sincères, des étudiants de bonne foi qui ne sont pas antisémites, qui sont réellement soucieux de la cause palestinienne et de ce qui se joue aujourd'hui à Gaza. Et ça, il faut le dire aussi. Et je voudrais dire une autre chose. Moi, j'ai été étudiant à Sciences Po entre 2005 et 2010 environ. Et il était inimaginable à l'époque qu'il y ait des forces de l'ordre qui rentrent dans l'université pour, débloquer un blocage, voilà, pour le dire simplement. Il y a toujours eu des blocages dans les universités, il y en avait à Sciences Po à mon époque, il y en avait ailleurs, que ce soit sur la cause palestinienne ou sur d'autres causes, ça a toujours existé et les étudiants ne sont pas seulement là pour apprendre le cours consciencieusement, ils ont aussi une liberté de conscience, une liberté politique et ça a toujours fait partie de la culture étudiantine, notamment à Sciences Po. Et moi, je m'inquiète, voilà, de ces images, que ce soit donc à Sciences Po ou à la Sorbonne, de forces de l'ordre qui rentrent dans l'université, parce que ça n'existait pas à mon époque, et ça nous dit comme quelque chose, quoi qu'on pense, hein, de certains slogans et évidemment inacceptables de certains étudiants. Moi, je trouve que ça dit quelque chose du raidissement sécuritaire actuel, du fait qu'on voit aujourd'hui des images qui étaient inenvisageables. Je pense qu'il y a quelques années.
Pour terminer, il nous reste moins de 8 000, se battre pour contre un contrat de travail pour les jeunes, je pense au CPE en 2005, puisque vous évoquez cette période, ou pour la question des retraites, c'est quand même pas tout à fait la même chose que de défendre les positions du Hamas.
Oui, alors évidemment.
Et donc ça nécessite une réponse aussi des autorités publiques peut-être différentes.
Il faut condamner tous ceux qui ont tenu des slogans pro-Hamas ou quoi que ce soit. Mais il n'y avait pas que ça aussi. Chez ces étudiants, il y a des étudiants qui avaient pour horreur ce qui s'est passé le 7 octobre et qui en même temps sont inquiets par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et je le redis, quoi qu'on pense, la liberté, c'est quelque chose qui est important. Et ces images-là, moi, en tant que défenseur des libertés publiques, elles m'inquiètent. Voilà.
Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On me dit que je vous appelais Raphaël il y a quelques instants. Pardonnez-moi. Oui. Merci, Mathieu. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et vous retrouver notamment sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.
Radio J.
C'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du Grand Journal, aux côtés de Pascal Sunshine depuis Jérusalem et d'Arié Ben Semoun d'Emlinet France. Restez avec nous, vous êtes bien sur Radio J dans le Grand Journal. A tout de suite.
Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
À l'occasion de Yom HaShoah, venez assister à la lecture des noms des déportés juifs de France du dimanche 5 mai à 18h au lundi 6 mai à 18h. Pendant cette lecture publique ininterrompue seront lus un à un les noms des personnes déportées par les convois numéro 22 à 57. La lecture des noms se déroulera au mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy Lagny à Paris dans le 4e arrondissement. Une manifestation organisée par le mémorial de la Shoah, Judaïsme en mouvement, les fils et filles des déportés juifs de France et le consistoire sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière?
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Radio J.
Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Radio J.
Merci d'être avec nous pour la deuxième partie du Grand Journal. Vous êtes sur Radio J et nous sommes en direct. Vous pouvez nous écouter notamment sur le DAB et nous suivre en vidéo sur Facebook et YouTube. Direction maintenant Jérusalem.
Radio J.
Osei shalom bimrovmav.
Nous, ikablou. Noi tnou, noi ikablou.
חברים, החדשות טובות. התחלנו לבלום את הדלטה. ילדינו מסתכלים עליהם. מה אנחנו רוצים שהם יראו?
פסקל זונשיין.
Bonjour Pascal.
Bonjour Steve.
Et merci de nous rejoindre comme tous les après-midi en direct depuis Jérusalem. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, le cabinet de guerre israélien doit se réunir en fin d'après-midi et il sera évidemment dominé par l'état des négociations en vue d'un accord avec le Hamas pour libérer les otages.
Oui, déjà annulée à plusieurs reprises, la réunion du cabinet de guerre a donc été annoncée pour aujourd'hui en fin d'après-midi. Ensuite, Benjamin Netanyahou l'élargira à l'ensemble des ministres du cabinet de sécurité. Des reports dus évidemment à l'attente de la réponse du Hamas sur la proposition de trêve et d'accord sur la libération des otages présentée la semaine dernière par l'Égypte. À la mi-journée, des sources égyptiennes évoquaient une avancée positive dans les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas. Même si rien de précis ne filtre sur les intentions réelles de l'organisation terroriste, le cadre général dont Israël a accepté le principe prévoit une période globale de 4 mois et demi découpée en 3 phases, avec une première trêve de 40 jours en échange de la libération de 33 otages, jusqu'à la restitution de l'intégralité des otages contre la libération de près d'un millier de terroristes, le retrait progressif de Tsahal de la bande de Gaza et le retour de la population palestinienne déplacée vers le nord du territoire. Mais le Hamas insiste toujours pour obtenir des garanties d'Israël sur la fin de la guerre. Et de la réponse du Hamas devrait aussi dépendre la décision du cabinet israélien sur le lancement ou le report de l'opération de Tsahal à Rafah, dernière partie de l'offensive contre le Hamas dans la bande de Gaza.
Israël qui suit également évidemment de très près la montée de l'antisémitisme en Occident, notamment sur les campus européens. Et le président israélien Yitzhak Herzog s'est adressé tout à l'heure aux communautés de la diaspora avec un message « Le peuple d'Israël est avec vous ».
Oui, dans le message qu'il a adressé tout à l'heure par vidéo aux communautés juives de diaspora, le président Herzog a tenu à exprimer le soutien et la solidarité de l'État d'Israël. Nous vous entendons, nous voyons l'hostilité éhontée et les menaces, nous ressentons l'insulte, la violation de la confiance et de l'amitié, nous partageons l'appréhension et l'inquiétude, a déclaré le chef de l'État d'Israël, qui a déploré une faillite morale qui a contaminé le monde universitaire. Yitzhak Herzog a encore salué les efforts héroïques des Juifs de diaspora face à cette résurgence terrifiante de l'antisémitisme. N'ayez pas peur. Tenez bon, fièrement, pour votre liberté. Israël tient à vous. Nous sommes là pour vous, a affirmé le président Yitzhak Herzog.
Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous pour cette chronique à réécouter sur radioj.fr. Bon après-midi et à demain.
À demain.
Radio J, le grand journal, Steve Nadjar.
On va retrouver dans quelques instants Arié Bensemoun. On nous dit même qu'il est déjà avec nous. Bonjour Arié.
Oui, bonjour.
Et merci de nous rejoindre, vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. Rafah ou un accord sur les otages, voilà finalement résumé, Arié, le dilemme auquel fait face le cabinet de guerre israélien Benjamin Netanyahou.
Oui, et quel dilemme, Steve. Parce que d'abord, Rafah, c'est indispensable pour terminer et gagner cette guerre. Et les otages, évidemment, cette question qui est la plus lancinante de toutes. Et je vous l'avais raconté, je pense que dans une de nos conversations, du jeudi après-midi, il y a pire que la mort, il y a ce que vivent les familles des otages. Oui. Cette attente terrible qui les transforme finalement en sorte de zombies qui vivent entre deux mondes, celui des morts, celui des vivants, c'est absolument inacceptable. Donc oui, la pression terrible qui s'exerce aujourd'hui sur le cabinet de guerre, entre cette alternative, parce que c'en est une. Évidemment, si on va à Rafah, ça veut dire qu'on passe à côté de la question des otages. Et si on se préoccupe des otages, alors là, on fait le jeu du Hamas, qui a très bien compris qu'il tenait tout le monde par la gorge et qui va continuer à repousser toutes les offres qui lui sont formulées jour après jour, parce qu'il sait qu'il tient là quelque chose qui lui permet d'organiser sa survie à moyen et, pense-t-il, peut-être même à long terme.
Et ces deux options, Arié Bensemoun, présentent également des risques politiques pour Benjamin Netanyahou et certains membres de sa coalition, le lui ont rappelé ces dernières heures.
Ben évidemment que les risques politiques sont là, mais ils sont là depuis avant le 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, c'est pire que jamais. Je pense qu'il faut mettre de côté l'ensemble de ces problèmes-là, de ces risques politiques. Benjamin Netanyahou ne doit pas se préoccuper de sa coalition, ne doit pas se préoccuper de son avenir à la tête du gouvernement, mais doit se préoccuper uniquement de ce qui est important, de ce qui est bon pour Israël. Malheureusement, je dis que nous avons perdu beaucoup de temps, il y a eu trop d'atermoiements, on a laissé une trop grande place à la négociation orchestrée par le Qatar avec le Hamas, qui s'est imposé dans une partie dans laquelle il n'aurait jamais dû avoir sa place. Et là, on est dans une impasse maintenant, justement parce que des erreurs ont été commises, qui ont pris en compte trop souvent les intérêts politiques des uns ou des autres. Ce pays a besoin aujourd'hui d'unité nationale. Il a besoin que cette unité nationale ne soit pas que dans les mots, elle soit dans la réalité de la gouvernance. Mais c'est des situations qui sont très compliquées et aujourd'hui on arrive à un point de non-retour d'une certaine manière. C'est un peu l'heure de vérité. Il faut finir cette guerre et il faut libérer les derniers otages dont on ne sait pas malheureusement encore combien sont toujours en vie. Et à cette question cruciale, il faut être capable de répondre, mais pas dans 6 mois, mais et tout de suite. Et ça n'est pas simple, puisque Benjamin Netanyahou a dit lui-même, avec ou sans négociation, nous irons de toutes les façons à Rafah. Ça veut tout dire en termes de détermination, mais ça ne veut rien dire non plus, parce que c'est envoyer un ballon en termes de communication pour voir comment vont réagir les différents acteurs de cette situation, et puis en fonction de ça, prendre une décision. Or, ce qu'il faudrait faire, je pense, compte tenu de ce que nous savons, des enjeux stratégiques,
et pour conclure,
parler moins et agir plus. Parler moins, agir plus. On fait trop de communication autour de ces sujets-là, et ce faisant, on fait la part belle au Hamas, qui comprend bien qu'il a toutes les cartes entre les mains.
Et qui profite d'ailleurs de cette pression publique. Merci beaucoup, Aryeh Bensimoun, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. Bon après-midi à vous. Merci. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Radio J, le grand journal, 14h, 15h, Steve Nadjar.
passées de 31 minutes. Merci d'être avec nous dans le grand journal. Vous êtes sur Radio J, c'est l'heure du rappel des titres. Et ce nouveau point sur l'info vous est proposé par Etanit Belaïch. Bonjour Etanit.
Bonjour Steve, bonjour à tous. En Judée-Samarie, une cellule du djihad islamique qui prévoyait de commettre un attentat à la bombe contre les forces de Tsahal a été démantelée. 3 membres de cette cellule ont été arrêtés en début d'année selon le Shin Bet. Il y a des progrès positifs dans les négociations pour la libération des otages. C'est ce que rapporte le journal saoudien Ashark al-Awsat. Plus tôt dans la journée, un membre du bureau politique du Hamas déclarait que l'organisation terroriste allait rejeter la proposition d'accord rédigée sous médiation qatari et égyptienne. 2 jours après l'évacuation par la police d'Hamilton Hall, bâtiment de l'université Columbia à New York, les interventions des forces de l'ordre sur les campus américains continuent. Selon un décompte établi par le New York Times, les policiers ont procédé à près de 1600 interpellations sur 30 sites universitaires ces 2 dernières semaines. Enfin, en France, des assemblées générales sont en cours dans plusieurs universités et écoles parisiennes pour discuter de la mobilisation étudiante pro-palestinienne. Après un débat ce matin à Sciences Po Paris, l'administrateur provisoire de l'établissement dit avoir refusé la création d'un groupe de travail pour revoir, je cite, les relations avec les universités israéliennes et des partenaires financiers.
Merci Tanit. Prochain journal sur Radio J dans une demi-heure.
Radio J. Le grand journal, Steve Nadjar.
Le portrait d'otage du jour est Tanit. 133, c'est le nombre de personnes détenues par le Hamas ce jeudi 2 mai dans la bande de Gaza depuis maintenant 209 jours. D'après le Daily Mail, seuls 40 d'entre eux seraient encore en vie. Et cet après-midi, vous revenez sur la dernière offensive du Hamas dans sa guerre psychologique contre Israël.
Le groupe terroriste a diffusé samedi dernier une vidéo dans laquelle apparaissent 2 otages enlevés le 7 octobre dans le sud d'Israël et emmenés à Gaza. Les 2 otages filmés assis sur une chaise en plastique devant un mur blanc défraîchi et qui s'expriment vraisemblablement sous la contrainte se présentent comme Keith Siegel, 64 ans, et Omri Miran, 47 ans. Le forum des familles d'otages a confirmé leur identité. Le Hamas avait déjà diffusé il y a une semaine une vidéo d'un autre otage israélien, Hersh Goldberg-Polin, 23 ans, filmé dans les mêmes conditions. Cette vidéo n'est pas datée, mais Omri Mihran indique être aux mains du Hamas depuis 202 jours. Son 202e jour de captivité, c'était jeudi dernier. Cette vidéo a donc été tournée il y a une semaine. Le sexagénaire Kissigel fait référence aux célébrations de Pessah passées en famille l'an dernier, avant de fondre en larmes, en se cachant le visage. Je vous propose d'écouter un extrait de son témoignage.
J'ai de très très beaux souvenirs du Pessah de l'an passé que nous avons célébré en famille et j'espère vraiment que nous aurons la meilleure surprise possible.
Vous les entendez, les sanglots, les larmes, la lourde respiration de Kissigel, otage d'origine israélo-américaine, qui a été kidnappé avec sa femme Aviva depuis son domicile à Kfar Aza et qui ne demande qu'à être libéré en pleine fête juive. Sur la vidéo, il semble avoir pris un coup de vieux et avoir perdu beaucoup de poids, affaibli par sa captivité de plus de 200 jours. Précisons que sa femme Aviva a été libérée fin novembre dans le cadre du premier accord de libération des otages signé par l'État hébreu et le Hamas. Elle a été l'une des premières ex-otages à témoigner ouvertement des violences sexuelles commises contre les femmes en captivité à son retour. Alors comme d'habitude, les propos des otages sont entrecoupés de messages du Hamas écrits en hébreu et en arabe et ils sont adressés aux citoyens israéliens.
La pression militaire n'a pas permis de libérer vos fils captifs.
Ou encore,
vos dirigeants n'ont que faire du sort de vos fils captifs et de ce qu'ils ressentent.
Cette preuve de vie de Kissigel et d'Omri Mihran montre clairement que le gouvernement israélien doit faire tout son possible pour conclure un accord pour le retour de tous les otages avant la fête de l'indépendance. C'est ce qu'a déclaré le forum des familles d'otages peu après la sortie de cette vidéo. La fête de Yom HaAtzmaout qui sera célébrée d'ici une dizaine de jours. Autre réaction, cette fois celle du père d'Omri. Omri, 46 ans, kidnappé également depuis sa maison à Nahal Oz. Omri qui dormait paisiblement avec sa femme Lishai et ses deux filles Roni, 2 ans et Alma, 6 mois, quand des membres du Hamas ont débarqué chez eux à 10h30 via la fenêtre de la salle de bain. D'abord placée dans une maison voisine, la famille va être épargnée par les terroristes, enfin presque, puisqu'Omri sera embarqué direction Gaza. On écoute donc le père d'Omri, Dani Mihran, qui a réagi à la publication du Hamas.
Derrière chaque otage, il y a des frères, il y a des oncles, il y a des parents. Une mère et un père qui s'inquiètent et qui pleurent tous les jours et toutes les nuits. Donc, je me réjouirai du retour de tout otage en Israël à sa famille et j'attendrai que mon fils arrive.
Un témoignage qui intervient sur fond de négociations sous médiation qatari et égyptienne en vue d'une trêve dans les combats dans la bande de Gaza, associée à la libération de plusieurs otages. On espère la signature de cette proposition et le retour de toutes les personnes enlevées le 7 octobre sans délai supplémentaire.
Merci Etanit.
Radio J.
Voici le programme de la prochaine demi-heure sur Radio J dans le Grand Journal. Juste après la pause, mon invité sera l'historien et l'essayiste Jean-François Colosimo. On rejoindra ensuite Franck Tapiro, Daniel Rouach pour la tech israélienne et Laurent Rabin, Bruno Fison. Restez avec nous sur Radio J. Le Grand Journal revient dans un instant avec, je vous l'espère, à tout de suite.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
À l'occasion de Yom HaShoah, venez assister à la lecture des noms des déportés juifs de France du dimanche 5 mai à 18h au lundi 6 mai à 18h. Pendant cette lecture publique ininterrompue seront lus, un à un, les noms des personnes déportées par les convois numéro 22 à 57. La lecture des noms se déroulera au mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy Lagny à Paris, dans le 4e arrondissement. Une manifestation organisée par le mémorial de la Shoah, Judaïsme en mouvement, les fils et filles des déportés juifs de France et le consistoire sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière?
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Radio J.
Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Radio J.
La troisième et dernière partie du Grand Journal. Merci d'avoir choisi Radio J. Nous sommes en direct jusqu'à 15h et vous pouvez nous écouter sur l'appli Radio J. Nous suivre en vidéo sur YouTube. Place maintenant à l'entretien de cette édition.
Radio J, l'invité du Grand Journal.
Radio J, Steve Nadjar.
Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Vous êtes historien des religions, directeur des éditions du CERF, et vous faites paraître chez Albin Michel un essai érudit consacré à un phénomène qui devrait dominer le 21e siècle, la volonté de revanche sur l'Occident qui anime les néo-empires que sont la Russie, l'Iran, la Chine, la Turquie et l'Inde. Le livre s'intitule « Occident, ennemi mondial numéro 1 ». Jean-François Colosimo, cette haine porte-t-elle nécessairement les germes de la guerre mondiale et généralisée?
Pardon. Nous ne connaîtrons pas une troisième guerre mondiale comme nous avons connu une première guerre mondiale et une seconde guerre mondiale. C'est évident. En fait, nous sommes plutôt entrés dans la première guerre mondialisée ou la première forme de guerre de la mondialisation, c'est-à-dire une éruption constante de conflits sur l'ensemble des continents, y compris désormais le continent européen, on l'a vu avec l'invasion de l'Ukraine, des conflits qui durent, des conflits qui n'ont pas de fin, au sens où soit en fait ils s'éternisent, soit en fait d'un coup ils s'arrêtent, mais sans qu'il y ait de résolution diplomatique, sans qu'il y ait de cessez-le-feu, d'armistice, de règlement de paix. Et en fait, nous sommes véritablement plongés dans cette espèce, je dirais, de dissémination du fait de la guerre. C'est un premier critère, je dirais, de transformation de ce qui nous arrive.
Sans que cela génère nécessairement par le système d'alliance des guerres du fait de la multiplication de ces crises-là, comme sur le modèle, par exemple, de la Première Guerre mondiale.
Non, voilà, je pense qu'on n'aura pas, si vous voulez... deux blocs, comme on a eu d'ailleurs après 1945, un Est, un Ouest, un empire du bien, un empire du mal, et réciproquement, vice-versa, selon la manière dont on se plaçait. D'ailleurs, cet affrontement entre les blocs avait été complètement stérilisé par l'arme nucléaire, et ça avait été en fait une guerre perpétuelle, mais par délégation sur des théâtres annexes, en Asie, en Afrique, un peu partout, n'est-ce pas? Non, on n'aura pas donc de confrontation de bloc à bloc. On aura, en fait, je dirais, une situation de harcèlement permanent qui, d'ailleurs, implique pas simplement le fait de la guerre lui-même, mais d'autres formes de guerre, guerre économique, avec la question des routes de l'énergie, guerre, évidemment, dans le cyberespace, n'est-ce pas, avec la manipulation des opinions, mais aussi avec la possibilité de neutraliser véritablement les ressources, je dirais, fonctionnelles d'un pays.
Et avec également une diversité d'acteurs, pas seulement des États ou des néo-empires, mais
non, mais vous savez, regardez aujourd'hui l'Iran, qui évidemment a développé à travers son arc chiite une déstabilisation complète du Moyen-Orient, puisqu'il n'y a à peu près que, aujourd'hui, à part l'Iran et Israël, il n'y a que des États faillis. C'est un peu, en quelque sorte, la mosaïque, je dirais, ottomane qui ressort sous la construction des États-nations. Et en fait, ce Moyen-Orient, il est aujourd'hui fondé sur une espèce de dyade, de couple, de tandem hallucinant, missiles et milices, n'est-ce pas? Vous voyez? Bon. Mais cet Iran-là, eh bien, il est aujourd'hui aussi l'un des grands acteurs du marché international de la drogue, via le Hezbollah au Liban, qui est en fait le convoyeur aujourd'hui des cartels colombiens pour ce qui est de la cocaïne, et via aussi le régime de Bachar el-Assad, dont le frère est un des plus grands exportateurs de drogue chimique, cette fois-ci. Et donc, vous voyez bien que vous avez d'un coup une alliance entre des États bellicistes, des groupes mafieux de crimes organisés et des groupes terroristes. Et que, en fait...
Qui tous profitent du désordre,
qui ont tous des intérêts convergents, ou un intérêt convergent qui s'appelle le chaos, en fait. Alors, la guerre, elle change pour toutes ces raisons. Elle change aussi pour une autre raison, c'est qu'elle change de nature. Vous voyez, depuis Clausewitz, le grand théoricien de la guerre, au XIXe siècle, la guerre, c'est une manière, en fait, de continuer la diplomatie par d'autres moyens, de manière à revenir à la diplomatie. Hein. Mais là, non, aujourd'hui, la guerre, c'est l'étalage de la force, de la barbarie et de la cruauté, c'est-à-dire de la terreur, n'est-ce pas ? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, que ce soit lorsque Erdogan et Aliyev d'Azerbaïdjan parquent les Arméniens du Haut-Karabakh pour les affamer, que ce soit lorsque Poutine libère des serial killers, des criminels de sang avérés pour les projeter sur le front contre les populations ukrainiennes, y compris les populations civiles, ou lorsque le 7 octobre, le Hamas déclenche son opération, je dirais que la ligne de continuité entre toutes ces démonstrations de force, c'est la barbarie.
Jean-François Colosimo a retrouvé ce soir sur Radio J à partir de 21h dans l'émission Géopolitique Le Mag.
Radio J. Steve Nadjar.
C'est l'heure de retrouver Franck Tapiro. Bonjour Franck.
Bonjour Steve, bonjour les auditeurs.
On est content de vous retrouver après, après cette semaine de Pessard. Franck, vous êtes communicant, vous pilotez les Diaspora Defense Force, les DDF. C'est Sciences Po qui va nous préoccuper cet après-midi, oui. où a été organisé tout à l'heure un town hall, un grand débat interne par la direction provisoire de l'école avec les étudiants sur le conflit israélo-palestinien. L'administrateur provisoire de l'école, Jean Basset, a reconnu devant des journalistes une hausse des signalements liés à l'antisémitisme et qu'il maintient les partenariats de l'école avec l'université israélienne. Il était temps, Franck ?
Il était temps, puisque les derniers épisodes, bon, évidemment dans le monde, mais surtout à Sciences Po, parce que c'est chez nous, nous ont effrayés. Cette école qui forme les élites de demain. Et il faut savoir que même s'il y a une poignée d'étudiants, peut-être, mais une poignée d'étudiants qui gangrènent le cerveau des autres. Vous savez, aujourd'hui, on est rentré dans une ère de minorité majoritaire. Avec deux abrutis, vous faites un buzz mondial. On le voit tous les jours, malheureusement. Donc, avec 150 fous furieux, avec leurs mains rouges, avec leurs keffiyeh, dont ils ne connaissent même pas l'origine, ni la traduction, ni la signification, terroriste, puisque l'ELP le portait en permanence, ils gangrènent énormément de gens. On se dit, mais comment des étudiants qui sont l'élite, des cerveaux de demain, s'ils portent ça, c'est qu'ils doivent quelque part un peu avoir raison ou avoir de bonnes raisons. Et donc, si on n'oppose pas à cela un peu de conscience, un peu de raisonnement, un peu d'histoire, et surtout la vérité, on laisse le problème se gangréner et à ce moment-là, ça devient quelque chose de très grave, une maladie grave, quasi incurable. Ça se propage en plus.
Cette crise a trop duré.
Elle a trop duré parce que, vous savez ce qu'il manque dans l'école, au sens large, que ce soit dans l'école et dans nos administrations, il manque de l'autorité. L'autorité, c'est de dire, stop, on peut laisser de la liberté d'expression, mais au moment que cette liberté d'expression vient se télescoper face à la haine des Juifs, donc à des problèmes... pénal, c'est un problème pénal, hein.
Ce qu'a reconnu l'administrateur provisoire, tout à l'heure.
Bien sûr. Hein. Il faut savoir dire non, vite. Pourquoi? Parce que c'était pour fêter la fin des cours, en fait, toute cette histoire. Vous imaginez, comme fête de fin d'année, vous dites, à mort Israël, à mort les Juifs, from the river to the sea, Israel will be free. C'est un vrai lapsus. Israel will be free. Ça, c'est ce qu'on souhaite, c'est la réalité, et c'est ce qui se passera. Quand on laisse faire ce genre de choses, ça se propage, et surtout, ça donne une image, non seulement de l'enseignement supérieur, des grandes écoles et de la France, épouvantable. Demain, ça veut dire que ces jeunes-là, ils vont dire quoi? Oh, c'est une crise? Pas du tout. Ils le pensent sincèrement.
Quand ils reproduisent le modèle américain, ce qu'on a vu à Columbia, oui. Ce qu'on a vu à Harvard un peu plus tôt au printemps.
Bien sûr, ils reproduisent cela. Pourquoi? Parce que c'est organisé par les mêmes. Vous savez, ceux qui financent les universités, malheureusement, dans le monde aujourd'hui, il faut voir la liste. Je l'avais donné il y a une semaine, ici. Le Qatar, l'Iran, etc. Et puis d'autres, malheureusement, qui propagent des idées de haine. Donc, c'est très facile de faire l'exportation de cela. Et ça leur donne une rémanence. Si vous avez 300 débiles à Columbia, plus 150 fous furieux à Sciences Po, 450 personnes, c'est rien, mais le buzz est mondial. On ne parle que d'eux.
Quel est le rôle des médias, justement? Certains ont considéré qu'il aurait fallu un peu moins médiatiser ces blocages, ces rassemblements, puisque finalement, ça donnait beaucoup de lumière médiatique à une toute petite minorité.
C'est impossible.
De radicaux.
C'est impossible. Il faut être clair, à un moment, on va vers l'audience et le sacré de l'audience. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est médiatiser aussi la partie qui s'oppose à cela. Donc, des gens qui viennent un peu raconter que ce que disent ces idiots inutiles, car ce sont des idiots inutiles de la cause palestinienne. Des idiots utiles de la cause du Hamas, oui, mais pas de la cause palestinienne. Ils n'ont pas compris que le Hamas a tué la cause palestinienne le 7 octobre. Donc s'ils voulaient faire du bien à la cause palestinienne, ils auraient crié au contraire, aidons Israël à permettre aux Palestiniens un jour d'avoir un État, etc. Non, ce sont des pro-Hamas. des génocidaires. Oui, ils veulent tuer tous les juifs. Donc encore une fois, si on laisse la tribune à ce genre de personnes, il faut équilibrer dans les médias et sur les réseaux. Voilà pourquoi on en fait beaucoup en ce moment avec la DDF et tous mes amis. On a diffusé des vidéos, encore ce matin, sur le worst of, non pas un best of, le pire de tout ce qui s'est dit dans ces campus, pour équilibrer, pour que l'opinion puisse décider. Et
ça vous surprend que le cœur, le théâtre de ces polémiques se fasse dans des écoles qui, a priori, valorisent la connaissance, valorisent le débat?
Ça me surprend pas du tout. Ça fait des années qu'on a laissé des pays odieux, comme le Qatar, financer ce genre d'école. Donc il faut se regarder dans la glace. On peut pas, un matin, se dire « Mais mon Dieu, que se passe-t-il »
Enfin, tout n'est pas lié au Qatar, là.
Pardon ?
Tout n'est pas lié au Qatar.
Non, mais comme le Qatar, vous savez, le Qatar, c'est un peu mon favori, hein, mon petit chouchou dans cette liste de pays épouvantables. Mais en plus, il se cache derrière ce qu'on appelle le soft power. On le voit bien que le Qatar, ce n'est pas du soft power. Les déclarations de leur ambassadeur à la Ligue arabe, qu'est-ce qu'il a dit ? Que le 7 octobre n'était qu'un démarrage et qu'il fallait aider le Hamas à aller encore plus loin. Il l'a dit ou non ? Donc, arrêtons de croire que le Qatar joue une partition correcte et transparente. C'est faux. Ils hébergent, ils financent le Hamas. Ils sont comme par hasard dans les négociations. Ça veut dire qu'ils ont la main sur le Hamas. Et qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils travaillent pour la libération de tous les otages ? Non. Ils demandent une condition aux Israéliens. Mais on est dans un monde de fous. Pareil pour les universités. Il faut sortir tous ces pays du financement. D'ailleurs, les grands milliardaires juifs américains, et non juifs d'ailleurs, ont suspendu leur financement de ces écoles en attendant que la paix revienne.
Pareil, il faudrait faire pareil à Sciences Po, qui est financé notamment par des entreprises, faire pression.
La même chose, la même chose. On ne peut pas laisser rentrer des capitaux qui prennent en otage une école, qui prennent en otage sa direction et le secteur académique. On a beau se cacher d'ailleurs énormément de valeurs, in fine, c'est exactement ce qui se passe. Que ça dure aussi longtemps, ce n'est pas normal. L'autorité, c'est de dire stop. L'autorité, comme l'a dit l'excellent Manuel Valls, c'est peut-être aussi de mettre cette école sous tutelle, s'il le faut, pour que le calme revienne, pour que le débat puisse s'installer et qu'on puisse passer à autre chose. Et la vraie autorité, c'est quoi, Steve ? C'est virer ses étudiants. On ne doit pas les garder. D'abord, un étudiant étranger à Sciences Po qui commet ce genre d'action, il est dégagé dans la seconde. Il prend l'avion et retourne chez lui. C'est dans la charte pédagogique, c'est pas moi. Hein. Mmh. Et deuxièmement, quand on est une institution comme Sciences Po, on se doit d'abord de protéger cette institution. Il faut virer ses étudiants. Non pas parce qu'ils ont...
Mais là, vous avez l'impression que pour terminer, Franck, la direction a un peu cédé, puisqu'il y a un accord qui a été trouvé pour permettre notamment d'organiser le jeu.
Non, c'est politique. Vous savez, monsieur...
Jean Bassère.
Oui, il vient de Pôle emploi. Alors peut-être pour se préparer à placer les étudiants qui auront été virés de sa prochaine école, j'ose le penser. Mais il est là pour calmer le jeu, donc il a d'abord sorti un communiqué de presse épouvantable, et derrière, il a tenu des propos plus équilibrés. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut, calmer le jeu, dégager ses étudiants, les virer de l'école.
Des sanctions,
mais les sanctions, c'est les virer. Faut pas autre chose, faut pas une suspension, faut les virer, faut qu'ils dégagent. C'est quand même extrêmement grave. Si vous voulez protéger Sciences Po, il faut les dégager tous. Et derrière, que l'action puisse reprendre. Juste un petit quelque chose. Oui, je finis par un slogan, c'est mon métier. Hier, quand j'ai vu la libération de Columbia, j'ai diffusé un slogan qui aura des suites. C'est From the campus to the street, Columbia will be free. Je vais l'adapter.
On attend les t-shirts et les
avec UCLA, avec toutes les autres facs. Et pareil, en France, du campus à la rue, Sciences Po sera libre. C'est exactement ce que nous devons obtenir à Sciences Po, à la Sorbonne, à Assas, et que toutes les autres facs et écoles se préparent parce que, quoi qu'il arrive, je pense que la raison gagnera.
On espère avec vous. Merci beaucoup, Franck Tapie.
Merci à vous.
Radio J.
Le grand journal, Steve Nadjar.
La Tech avec Daniel Rouage. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Steve.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-France et vous nous parlez cet après-midi de robotique.
Oui, je suis le président d'honneur de la Chambre de commerce et Israël-France et c'est normal que je m'intéresse à tout ce qui concerne, vous savez, les échanges technologiques et autres. Il y a un domaine tout à fait important qui émerge venant des start-up israéliennes, c'est le secteur de la robotique. Donc, dans notre chronique, là, cet après-midi, je voulais parler de quelques start-up israéliennes qui méritent d'être connues. La première, c'est Menti Robotics. La deuxième, c'est Bionic Hive. Et la troisième, c'est Tevel Robotics. Alors, le monde, vous savez, de la robotique militaire est très, très connu. Les Israéliens sont très forts, également dans le domaine civil. On sait que dans la robotique, il y a le domaine médical où des résultats spectaculaires ont eu lieu ces dernières années par les Israéliens. Mais actuellement, on assiste à d'autres domaines qui sont concernées. Alors, la première start-up dont je voulais parler, c'est Menti Robotics. Ce sont des robots humanoïdes. Un robot humanoïde, c'est un robot dont la forme ressemble au corps humain. Mm-hmm. Le premier prototype d'un robot à l'apparence humaine conçu par le fondateur de Mobileye, Amnon Shashua, qui marche sans cou ni tête et effectue des tâches ménagères sur commande vocale, a été présenté pour la première fois.
Ça plaira beaucoup de monde.
Avec un travail de développement qui a duré 2 ans. C'est absolument magnifique. C'est une start-up qui s'appelle Menti Robotics qui est derrière, qui a beaucoup, beaucoup d'argent pour développer la recherche et développement et son robot. Le premier robot donc est polyvalent mobile. Il peut faire la vaisselle, la lessive, travailler dans des usines et apprendre par mimétisme. Alors, je vous avoue, je ne l'ai toujours pas vu. Quand je le verrai, je vous dirai, écoutez, tout ce qui est annoncé est exact. Mais pour le moment, je préfère attendre. Alors, il y a une autre société, et ça vaut la peine de la connaître, c'est Bionic Hive. En bref, c'est un robot qui est capable de trier, sélectionner et ranger les colis. Il est maintenant presque dans les mains du groupe Amazon et il est basé dans une ville que j'adore, qui a souffert comme c'est pas possible depuis le 7 octobre. C'est la ville de Sderot, donc
Pionic Hive. Dans le sud d'Israël.
Voilà, elle a été fondée par 3 entrepreneurs en 2014, donc on est déjà 10 ans après. Et Bionic Hive est spécialisée dans la technologie robotique de la chaîne d'approvisionnement. Elle a reçu un financement important du Fonds d'innovation industrielle d'Amazon. Le chèque est venu de Musk lui-même. L'objectif du Fonds d'innovation industrielle d'Amazon est de soutenir les technologies émergentes par le biais d'investissements directs conçus pour stimuler l'invention et résoudre les défis les plus difficiles du monde à travers les opérations de traitement des clients, la logistique et les solutions de chaîne d'approvisionnement. Disons-le simplement, Amazon utilise maintenant les outils qui ont été développés par Bionic Hive, cette start-up. Il faut savoir que Elon Musk a connu cette société à travers simplement une vidéo où la société montrait des robots en action, elle avait attiré son regard. Elon Musk, c'est quand même SpaceX, Tesla et autres. 2000 installations dans le monde et Bionic Hive, vous verrez dans quelques années, cette société, sa valorisation sera absolument extraordinaire.
Merci.
Déjà, Amazon emploie plus de 1,5 million de personnes dans le monde, c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup pour ces découvertes partagées avec nous comme tous les jeudis après-midi, Daniel Rouache. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Merci à vous, à la semaine prochaine.
À bientôt.
Radio J, le grand journal, Steve Nadjar.
Monsieur le grand rabbin Bruno Fison, bonjour à vous et merci de nous rejoindre.
Bonjour.
Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle et vous nous parlez cet après-midi d'un thème difficile, celui de la libération des prisonniers juifs et des otages, un thème évidemment éminemment d'actualité.
Absolument, donc on est dans un moment de grande angoisse, on le comprend pour les familles, pour l'ensemble de l'État d'Israël et pour le peuple juif. Et la question des otages ou des captifs en général, qui portent le nom de Pidyon Shvuin, donc la libération des captifs, est une vieille question de loi juive, de halakha. Et déjà les rabbins se sont penchés depuis le Moyen-Âge, parce que le kidnapping de personnes juives durant le Moyen-Âge était assez courant, pour demander une rançon. Et Rabbi Yosef Karo, le grand rédacteur du Shulchan Aruch, expliquait que tout instant que retarde la libération d'otages, on disait pas otages, de prisonniers, de shvouim, de captifs, eh bien, c'est comme si on versait du sang, chauffeur d'amim, donc c'était assez fort, et donc il faut tout mettre en œuvre pour libérer les otages. Mais on a un traité quand même du Talmud, dans Gittin, qui explique que, alors je dis en hébreu, « Inponim et ashvouim, yeter al » On ne peut pas non plus libérer des captifs à un prix très très élevé, plus que ce qu'ils ne valent.
Alors, ça, il y a des limites.
Savoir ce que ça veut dire. Des limites, voilà. Mipnei tikkun olam, à cause de, littéralement, le fonctionnement du monde, on va dire comme ça. Alors, si c'est une question économique, alors on peut dire que là, en vérité, on peut mettre des sommes même très très fortes. Si les sommes sont trop importantes, peut-être que les kidnappeurs seront tentés de kidnapper d'autres juifs, mais quand même, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de limite. Par contre, si c'est une question, et c'est intéressant, bitronie, c'est-à-dire de sécurité pour l'ensemble du peuple juif...
Comme ça peut l'être aujourd'hui.
Exactement, c'est ça tout le dilemme et le débat. Maïmonide disait que si on donne trop aux kidnappeurs, alors ils vont être tentés de s'attaquer à d'autres juifs. Voilà, pas seulement pour un problème d'argent. Et donc, peut-être qu'il ne faut pas aller trop trop loin dans les discussions. Alors évidemment, aujourd'hui, on est dans un problématique. S'ajoute également une autre notion qui s'appelle Safek Sakana. Il y a un danger pour les captifs, bien un danger de mort, évidemment c'est le cas aujourd'hui, mais il y a aussi peut-être un danger pour le reste des Juifs si on libère des terroristes. Alors on a deux opinions grosso modo. Rav Shlomo Goren, déjà à l'époque, l'ancien grand rabbin d'Israël et grand rabbin de l'armée d'ailleurs, disait que non, si le risque pour la population, le reste de la population est trop grand, il faut pas aller jusqu'à libérer des terroristes dangereux. Un autre Rav qui s'appelle
Rav Shaul Israël, s'il vous plaît.
Oui, eh bien, justement, un autre Rav disait, ben non, l'État d'Israël a un devoir vis-à-vis des citoyens otages, il faut tout faire pour le libérer. En fait, il faut s'en remettre dans la notion halakhique, dans ce qu'on appelle les mumchés, les spécialistes, c'est-à-dire les militaires. C'est à eux, finalement, d'évaluer le risque, finalement, pour l'ensemble de la population et le risque pour les captifs et prendre la bonne décision.
Évidemment, c'est extrêmement compliqué. Éclairant sur l'actualité du grand rabbin Bruno Fison. Merci beaucoup, monsieur le rabbin, pardon pour cette coupure, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Shabbat shalom, à la semaine prochaine.
Radio J, 14h-15h, Le Grand Journal, Steve Nadjar.
Et merci à vous d'avoir suivi.